Bienvenue dans Doctorat Mode d'emploi, la mini-série conçue pour t'accompagner à chaque étape de ton parcours doctoral. Dans chaque épisode, on te donne des conseils concrets, des retours d'expérience et des outils pratiques pour t'aider à naviguer dans l'univers parfois mystérieux du doctorat. Que tu sois en train de rédiger ton projet, de chercher un directeur ou une directrice de recherche ou de préparer ta soutenance, cette série réalisée par Megda Bentou de Why a PhD et Émilie Doré de Réussir sa thèse est faite pour toi. Installe-toi confortablement, on y va. Bonjour Émilie.
Bonjour Megda.
Qu'est-ce qu'un projet de thèse et à quoi sert-il surtout?
Un projet de thèse, c'est un document d'abord. Un document qui peut faire 3, 4, 5, jusqu'à 10 pages. Rarement plus de 10 pages au moins dans les universités en France. Et qu'on produit avant de s'inscrire en thèse. Donc en fait, c'est vraiment un document qu'on va présenter à un possible encadrant de thèse pour s'inscrire avec lui, avec elle, et faire sa thèse. Donc c'est vraiment un document comme vraiment une carte de visite, et puis où l'encadrant va voir si tu es capable de faire une thèse aussi, et s'il a envie de te guider dans cette thèse, si le sujet lui convient. Voilà, donc ça c'est vraiment ce rôle-là de un peu de filtrage en fait pour voir si tu peux continuer en thèse avec telle ou telle personne. Donc le document, il raconte sur quoi tu vas travailler et pourquoi tu vas travailler là-dessus. Donc sur quoi et pourquoi, c'est important. Donc il faut faire le point sur tu vas en reparler, mais sur la problématique, hein, sur le grand problème que tu te proposes d'investiguer. Et donc, il faut qu'il soit convaincant pour l'encadrant, mais j'aurais tendance à dire aussi, il sert pas que à ça, il sert aussi au candidat doctorant à faire le point sur vraiment, qu'est-ce qu'il veut faire comme recherche. Ça sert beaucoup à faire le point. On est obligé de synthétiser, obligé de clarifier. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est à la fois un document qui va communiquer à destination de l'encadrant et pour l'apprenti doctorant, un document qui va lui permettre de faire le point.
Pourquoi c'est essentiel de définir une problématique claire et originale dans un projet de thèse? Et à ton avis, est-ce qu'on doit l'adapter à l'interlocuteur, à l'interlocutrice à qui on l'adresse?
Déjà, rappeler ce que c'est une problématique, parce que peut-être que c'est pas clair pour tout le monde, hein. C'est un mot qu'on entend souvent, mais on peut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Une problématique, c'est une question, hein. C'est un questionnement scientifique argumenté. Donc, tout simplement, ça peut vraiment se poser sous forme de question avec un point d'interrogation à la fin, mais une question dont on a expliqué d'où elle venait, etc. Donc, avoir une bonne problématique, donc ça veut dire une question scientifique qui est bien posée. Elle va impulser toute la thèse, en fait, toute la thèse va s'organiser autour de ça. Et le doctorant qui sait monter une belle problématique, c'est-à-dire une problématique qui soit claire, qui soit percutante, qui vienne effectivement poser une question originale, qui n'a pas été complètement traitée sous cet aspect-là, c'est ce que l'encadrant attend. En fait, c'est ce qu'il veut voir. Donc, c'est pour ça que c'est important. Original, oui, parce que tu sais que la thèse, c'est un document qui est évalué sur son originalité. Donc, on doit bâtir son propre problème scientifique. Alors après, déjà, il faut peut-être... Là, j'ai mis un peu la pression peut-être à ceux qui nous entendent, qui doivent se dire « Oh mon Dieu, mais ça doit être extraordinairement difficile, etc. » Il faut savoir qu'une problématique, elle évolue, donc vous n'êtes pas obligé de trouver la problématique gravée dans le marbre, que vous aurez la même encore dans 3 ans. Pas forcément. La problématique peut évoluer au fur et à mesure de nos réflexions, mais en tout cas, il faut essayer de la fixer à un instant T et de la formuler de façon vraiment claire. Alors, est-ce qu'on doit l'adapter à son interlocuteur? C'est une grande question. Forcément, oui, un peu, parce que si tu vas travailler avec un encadrant de thèse, il faut que ton travail l'intéresse. Et surtout, si tu souhaites que ton travail soit financé, ça peut aussi vouloir dire que la problématique, elle doit être orientée dans un sens qui va intéresser le financeur. Moi, personnellement, ce que je pense aussi, c'est qu'il ne faut pas quand même trop tordre la problématique qui nous intéresse dans un sens extérieur, dans le sens de l'intérêt de l'autre, en fait, que ce soit l'encadrant ou le financeur. Parce que si tu fais une thèse qui, en fait, reflète l'intérêt de quelqu'un d'autre, que ce soit ton encadrant ou ton financeur, ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas, au bout d'un moment, ta motivation, elle va se dégonfler complètement. Tu vas t'ennuyer, t'en auras marre, tu sauras plus pourquoi tu fais ça. Parce que la thèse, c'est quand même très engageant. C'est pas un travail mécanique, c'est un travail créatif sur du très long terme. Et si t'es pas foncièrement passionné par ta problématique, mais tout simplement, ça va pas marcher. Donc, attention avec ça. On aurait tendance à dire, oui, je vais l'adapter à mon interlocuteur, comme ça, j'aurai plus de chances d'être pris en thèse. C'est à double tranchant. À un moment, je pense qu'il faut aussi assumer son intérêt. Pour entrer dans une relation avec un encadrant qui soit équilibré, où on n'est pas tout sacrifié. Ça me semble aussi très important, donc soyez au clair, si vous souhaitez entrer dans une thèse, soyez au clair sur ce qui vous intéresse vraiment, ce qui est votre passion, et n'y renoncez pas.
Oui, de ne pas prendre le risque de se perdre en cours de route ou de d'arrêter tout simplement
C'est
sa
ça.
thèse par manque de motivation. À ton avis, quels sont les éléments clés à inclure dans un projet de thèse?
Alors, je vais centrer ma réponse sur les sciences humaines et sociales. Déjà, demandez à l'université qui vous intéresse si elle a un format spécial, hein, parce que ça peut y avoir des variations. Mais grosso modo, on va avoir une présentation du contexte, des éléments donc de fait, hein, descriptifs. On va avoir une revue de littérature ou un état de l'art. Hein, ça, c'est deux termes qui se recoupent, c'est-à-dire une présentation de qu'est-ce qui se sait sur ce thème qu'on a commencé à introduire, qu'est-ce qui se dit en science sur ce thème, qui débouche sur une problématique. Donc, c'est-à-dire la problématique, c'est un problème scientifique. Ça veut dire sur ce sujet-là, la connaissance en est à tel point, mais il manque quelque chose. Il manque un aspect de la connaissance. Donc c'est ça qu'on présente. Hein. Donc on pose sa question, on pose son problème qui découle de ça. Et ensuite, une fois qu'on a posé la question, on peut avancer de grandes hypothèses qui sont des tentatives de réponse qu'on va bien sûr vérifier dans tout le travail de sa thèse. Et pour vérifier ces hypothèses, on va avoir une méthode. C'est-à-dire qu'on va aller recueillir des données. Alors les données, selon notre discipline, elles peuvent être très différentes. En sociologie, ça peut être des données d'enquête de terrain. En droit, ça va être des données de jurisprudence. En histoire, ça va être des archives. Peu importe, mais en tout cas, il y a toujours ce qui caractérise le travail de recherche. Ça n'est pas un essai, c'est vraiment du travail de recherche. C'est qu'il y a une recherche sur des données. Donc, il faut que tu indiques dans ton projet de thèse quelles sont les données que tu vas devoir aller recueillir pour vérifier ces hypothèses et comment tu vas t'y prendre. Donc ça, c'est la partie méthodo. Puis après, il peut y avoir, selon les cas, d'autres parties qui viennent s'ajouter ou pas, comme un calendrier prévisionnel. Dans certaines universités, il va y avoir un paragraphe sur les aspects éthiques qui peuvent être touchés dans le projet de thèse. Voilà, après, c'est variable. Il peut aussi y avoir un paragraphe objectif. Hein, quels sont les objectifs de cette thèse?
Enfin, pour terminer cet épisode, je voulais te demander quels sont les pièges à éviter lors de la rédaction d'un projet de thèse.
Il y en a beaucoup.
Tu en as parlé tout à l'heure, de peut-être pas tomber dans cet écueil de vouloir trop s'adapter à son directeur ou sa directrice de recherche.
C'est vrai. Ce qui nous empêcherait d'ailleurs aussi d'être original. C'est tout un équilibre parce que effectivement, il faut pas complètement se confondre, se mouler dans les attentes. En plus, les attentes imaginées, hein, de l'encadrant. Cependant, il ne faut pas non plus laisser complètement de côté les besoins de l'encadrant quand il va lire le projet. Ça serait une erreur, ce serait l'erreur inverse. De quoi il a besoin, l'encadrant, quand il lit le projet? Il a besoin de clarté. Il a besoin, c'est-à-dire, il a besoin de comprendre rapidement. Parce que si déjà il doit se prendre la tête pour comprendre le projet, ça va être terrible pour lui de lire toute la thèse, donc ça ne va pas. Donc il faut que le texte soit clair, et je dis même au niveau du style. Il faut vraiment que la principale qualité du projet de thèse, c'est la clarté. Donc il faut éviter un style difficile ou inadapté. un style jargonnant, par exemple. On se dit, bon, comme c'est une thèse, c'est sérieux, donc je vais mettre plein de concepts. Ben, pas forcément, en fait. Il faut les mettre de façon pertinente, mais il ne faut pas que ce soit trop jargonnant. Donc ça serait un style inadapté, au détriment de la clarté. Il faut pas non plus montrer qu'on est vraiment trop novice ou naïf par rapport à la méthode scientifique. Et ça se lit un peu entre les lignes. Tu sais, quand tu lis un texte et tu devines que la personne n'a pas trop l'habitude de faire de la recherche, par exemple, parce qu'elle avance des affirmations à brûle-pourpoint, ou elle présente comme des choses certaines, des éléments qui en fait sont des hypothèses ou des interprétations d'auteurs, mais qui sont pas des faits parce que d'autres auteurs ne sont pas forcément d'accord. Donc, ce que font souvent comme erreur les candidats au doctorat, c'est de ne pas faire la différence entre les différents statuts que peut avoir une phrase. Une phrase peut présenter un fait tout simple. Dans ce cas-là, pas besoin d'amener de précautions, hein. C'est juste un fait que tout le monde reconnaît, que personne va aller contester. Mais une phrase peut aussi présenter l'affirmation d'un auteur. Dans ces cas-là, il faut toujours dire d'où elle vient. Un tel dit que, un tel a affirmé, un tel a montré que. Il faut pas le mettre comme si c'était une vérité absolue. Ça vient de quelque part. Et puis ensuite, il y a nos propres hypothèses, nos propres pensées, c'est pareil, il faut avoir un vocabulaire adapté en disant nous faisons l'hypothèse que, voilà, il est possible que, en tout cas, il faut toujours adapter son vocabulaire, il faut montrer que déjà on a une rigueur intellectuelle et qu'on fait la différence entre ce qui a été démontré, ce qui n'a pas été démontré, ce qui demande à être démontré. Ça, c'est vraiment un super point quand on fait un projet thèse, quand on a cette précision-là de clarté de style, c'est très très positif. Voilà. Et après, le directeur, il attend aussi de votre part une grande autonomie. Donc, il faut pas être trop scolaire non plus. Il faut être original. Parler depuis son expérience propre, si on vient d'une discipline, si on vient d'une pratique professionnelle, il faut pas chercher à le cacher. On peut parler depuis son expérience propre pour montrer qu'est-ce qu'on peut apporter d'original à la réflexion à partir de nos propres observations, depuis où on va observer les choses. Ça aussi, on peut le montrer. On n'est pas obligé de gommer sa subjectivité. Du moment que, on le met en tant que tel, en parlant à la première personne et en disant que c'est qu'on parle depuis notre expérience.
Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et à nous suivre sur whyaphd.com et réussirsathèse.com. À très bientôt!